9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, j'espère que vous allez bien ce matin, il va falloir vous accrocher. J'ai invité le docteur Bruno Donatini, bonjour doc.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue, vous êtes hépatologue, cancérologue et immunologue. Et puis alors en plus de ça, vous êtes ostéopathe.
Oui.
Vous vous ennuyez dans votre vie?
Pas vraiment, non, c'est vrai. Mais on est toujours à la recherche de quelque chose, un petit déclic qui va modifier, améliorer les choses. Et l'ostéopathie me semblait quelque chose d'intéressant pour débloquer. L'ostéopathie, ça débloque, le cou, l'estomac, l'intestin. Et donc, on est dans un monde de gens bloqués, rien ne se vide. Donc, il fallait débloquer le système. Donc, l'ostéopathie m'a semblé quelque chose de sérieux, d'anatomique et finalement de pratique. On essaye, ça marche, c'est merveilleux. Donc, j'aime bien l'ostéopathie, les petites clés simples qu'on oublie souvent et qui vont résoudre un problème.
Aujourd'hui, vous vous intéressez aux champignons. Comment on appelle cette science d'étude des champignons?
Parce que la mycologie,
oui,
ou la mycothérapie, si on veut l'appliquer à la thérapie je dirais simple, un peu naturel.
Pour les gens branchés, c'est une branche de la phytothérapie. Hein.
Tout à fait.
Et alors, les champignons ont énormément à nous apprendre. Ils deviennent connus, hein, même avec des noms barbares. Hein.
Et souvent, on en rajoute un petit peu sur la barbarie des noms. On va chercher l'exotisme japonais, le reishi, le karawatake, le maitake. En fait, ce sont des champignons européens, avec des noms latins, grifola. On va avoir le Coriolus versicolore. Donc, en fait, le nom latin est la base, comme en phytothérapie. Mmh. Et les champignons sont des champignons locaux que l'on rencontre dans nos forêts.
En tout cas, aujourd'hui, c'est une nouvelle science qui est en train de démarrer avec justement l'étude des champignons. Mais vous êtes là ce matin pour nous parler de votre dernier livre, s'appelle La bouche, miroir de votre santé, aux éditions Flammarion, cancer, diabète, Alzheimer, ce que notre bouche révèle. Est-ce que vous voulez piquer le boulot des dentistes?
Les dentistes sont très impliqués, mais malheureusement, ils s'occupent des dents plus que des gencives. Et ils ont une... Excusez-moi, je ne veux pas dire de vilaines choses, mais la flore, ils connaissent, mais ils n'appliquent pas ce qu'ils connaissent. Ils ne vont pas moduler la flore, ils ne s'intéressent pas aux virus, encore moins aux phages. Et donc, finalement, ils vont avoir un métier, finalement, de super bricolage et de réparation, mais pas de prévention.
Alors, on va parler ce matin de la prévention, justement, de la flore buccale, puisque c'est vraiment votre sujet, et que vous nous expliquez que la bouche est un véritable sujet de santé publique. Et vous parliez des phages, mais ça aussi, c'est un sujet qui est passionnant. Vous dites qu'aujourd'hui, les médecins ont perdu l'habitude de faire les examens de la bouche, mais c'est vrai qu'il y a 30 ou 40 ans, on commençait par là, ouvrez la bouche.
Absolument. L'examen clinique, c'est le visuel, le palpatoire. Et l'examen clinique en quelques minutes, ça n'est pas possible. Alors, vous me direz, pas besoin de se déshabiller pour examiner une bouche. On ne perd pas de temps à examiner une bouche. Mais une consultation classique, ça va être 10 minutes, un quart d'heure. Et examiner une bouche, c'est sorti de l'examen habituel ou rituel. On va prendre la tension artérielle, on va regarder si le sujet est un peu jaune, on va poser quelques questions, et puis c'est la fin d'une consultation classique. Donc, l'examen de la bouche, c'est désespérément ignoré. Quand je donne des conférences ou des formations, je pose la question, examinez la bouche de vos patients, j'ai même pas trois doigts qui se lèvent dans une assemblée de 100 personnes de médecins. Donc, c'est ignoré de la consultation habituelle. Il n'y a pas d'enseignement à l'université d'un examen de la bouche.
Alors, vous avez une petite lampe.
Oui.
Qu'on appelle comment ?
Une lampe de Wood.
D'accord.
Wood W2OD, UV noir, qui permet de révéler les fluorescences de certaines bactéries.
Qui s'appelle comment ? Quelles sont les fameuses bactéries que vous recherchez, vous, en premier, d'ailleurs ?
La première à rechercher, c'est Propionibacterium acnes, celle qui donne l'acné, qui est sur la peau, qui va émettre les acides gras, et donc l'acidité, acide gras, acidité, et qui est rattachée aux flores pauvres de gens qui consomment trop de sucre. Et donc, on va l'observer chez les personnes qui ont fait de l'acné ou qui vont faire une flore pauvre avec un blocage gastrique et hyper acide. Donc ça, c'est la première grande bactérie. La deuxième, si on associe à une lampe bleue, on va voir Porphyromonas gingivalis, qui donne des caries, des gingivites, et qui est associée à la maladie d'Alzheimer. La troisième,
c'est... Et Parkinson, vous faites un...
Parkinson, c'est Fusobacterium nucleatum. encore une autre bactérie, toujours du latin, hein, vive la science, le latin, tout ça. Très sérieux.
Moi, je suis
quand
fan,
vous dites ça,
allez-y.
Ouais. Fusobacterium nucleatum, c'est la troisième couche sur la flore dentaire, celle qui mange les débris quand vous avez des petits saignements de gencives. C'est le nécrophage, hein, c'est le charognard de la bouche qui va donner une mauvaise haleine, qui va favoriser le Parkinson, les polypes, les ulcères, le cancer du pancréas, c'est cette vilaine bactérie. Celle-ci, elle va apparaître non pas bleutée, mais également rouge à la lampe de Wood. On a une troisième flore qui est Helicobacter pylori, la célèbre bactérie
de l'ulcère. Celle-là qui était,
elle est orangée.
Ouais, c'était celle-là qui était impliquée dans le cancer de l'estomac.
Cancer de l'estomac, tout à fait.
Ouais.
Donc, en fait... L'hélicobactère est associé à un ensemble de flore, qui est une flore que l'on appelle un microbiote. Les bactéries s'associent entre elles, association de malfaiteurs. Il y a rarement un coupable. Donc elles vont s'associer, former des briques très solides, difficiles à détruire. Vous avez des couches successives, et l'antibiotique va détruire une couche, mais il en restera toujours une qui favorisera la reconstruction du vilain mur. Donc vous avez un microbiote solide, indestructible, et on va avoir trois microbiotes. Et le microbiote qui favorise le cancer et le Parkinson, c'est Prevotella, et qui inclut Helicobacter. Donc il faut percevoir des mondes de complices. Ce sont des sociétés.
Tout ça avec votre petite lampe toujours, hein. Tout ça, vous le voyez avec l'examen de la bouche, hein.
On peut, avec un examen clinique simple, dire c'est Prevotella ou c'est pas Prevotella. On va avoir des caries, des gingivites et ces fluorescences. Ensuite, si on a un petit doute, on va avoir des petits tests, soit avec des bandelettes, des tests minutes, qui vont dire il y a bien Helicobacter ou pas, ou on peut aller plus loin, prélèvement de salive, analyse génétique, amplification génique, comme le Covid, et oui, on avait bien telle bactérie, tel virus, c'était bien un herpès, et on va avoir cette fois-ci le déclic pour un diagnostic, vous êtes à risque de, puisque vous portez telle chose dans la bouche.
Alors, il y a un autre examen que vous aimez beaucoup, c'est ce qu'on appelle la méthode du nez électronique.
Ah oui.
Alors ça, c'est une de vos autres passions, apprenons-nous, hein, parce que vous ennuyez beaucoup. C'est un gaz spécifique qu'on appelle le monoxyde d'azote.
Oui.
J'coune ce monoxyde d'azote, et de quoi est-il responsable ?
Alors tout d'abord, le nez électronique. En fait, c'est un appareil qui mesure les gaz expirés. Les bactéries sont en fait des organismes qui mangent en général des sucres, un petit peu de protéines, et qui émettent plein de déchets. Donc ces déchets, ce sont des gaz. Environ 3000 gaz ont été enregistrés. Et il y en a une soixantaine qui sont diffusibles, qui vont traverser la barrière, être dissous dans le sang et être émis par l'haleine. Donc nous avons une haleine qui est un peu spécifique.
Chacun d'entre nous a ça. Ouais.
Voilà, ce qui fait qu'un animal avec le nez fin vous reconnaît, c'est que c'est vous qui rentrez par votre odeur avant de vous avoir reconnu. Donc finalement, ces gaz, c'est une signature. Et cette signature, on commence à s'approcher par des appareils de plus en plus fins qui détectent une molécule par mètre cube, voire une molécule par 1000 mètres cubes. Donc on est au milliardième de particules. On est en train de concurrencer le nez du chien, d'où le nom nez électronique. Et donc cette signature, on a une soixantaine de gaz que l'on peut résumer en gros en gaz léger et gaz lourd. Vous ne devez pas avoir de gaz lourd, sinon vous accumulez soit de la graisse, soit vous accumulez des débris dans votre paroi, des débris d'acide gras qui vont aller contaminer votre cerveau, d'où des maladies inflammatoires, chroniques, neurodégénératives. Donc plus vous avez des pics lents, pire c'est. Et deuxième volet, selon le profil de pic léger, vous aurez un risque de maladie métabolique ou de malabsorption, de perte de poids et de mauvaise qualité de flore et de risque infectieux. Donc de plus en plus, cet appareil va vous dire, vous avez telle flore, vous êtes à risque de.
Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment le docteur qui vous fait cet examen y arrive. Vous provoquez un rot chez le patient.
Je peux avec donc le monoxyde d'azote. J'ai pas répondu entièrement. Ouais,
avec sur mon gaz là, sur le monoxyde. Voilà. Comment on arrive à l'extraire ?
Ah, oui. Donc le monoxyde d'azote est un gaz de relaxation. Donc il va relaxer les artères, mais aussi les sphincters. Donc l'estomac va se vider. Si vous possédez ce gaz, vous aurez une motricité qui sera correcte et donc vous aurez une possibilité, premièrement, de faire un rot facilement et deuxièmement d'évacuer votre estomac. Donc on va le provoquer soit avec une bonne bière, ce qui n'est pas très médicalement correct.
Et puis il y a tous ceux qui ne boivent pas de bière pour des tas de raisons.
Soit avec, je dirais, une création de limonade, c'est-à-dire du citron et du bicarbonate. Et là, à votre santé, vous créez du gaz et vous dites, laissez-vous aller, si vous avez un RO, je récupère dans un ballon votre RO et je vais analyser.
Le monoxyde d'azote.
Et j'analyse le monoxyde d'azote qui doit être présent localement, synthétisé par une flore riche d'origine buccale et salivaire. Et donc ce monoxyde d'azote indique que la flore est bonne et permet la relaxation et l'évacuation de l'estomac.
Les examens dont on vient de parler ce matin, qui les pratique à part vous ?
Eh bien, j'essaye d'enseigner chaque année à une trentaine d'étudiants l'utilisation du nez électronique, la mesure du monoxyde d'azote. Donc, on va dire qu'il y a une bonne centaine de thérapeutes qui peuvent être, pour certains, des médecins, des pharmaciens, des naturopathes, des dentistes. Donc, on va dire une centaine, voire 200 personnes ont été formées. Une centaine doivent l'appliquer quotidiennement. Donc, c'est un petit réseau qui se met en place de gens équipés et formés. Ensuite, on peut aller un peu plus loin. Il y a des appareils plus performants qui vont analyser plus de gaz, qui sont plus coûteux, moins fréquents. Et ensuite, il y a l'échographie qui permet de voir la vidange, le liquide, si la muqueuse est correcte. Et là, c'est réservé aux médecins.
En fait, vous avez un petit peu donné l'arsenal qu'il existe dans les tests aujourd'hui. Et tout ça permet de mesurer notamment l'équilibre et le microbiote de la bouche de chacun d'entre nous, en fait.
Première étape, toujours en médecine, et j'insiste beaucoup, on est sur une approche donc médicale, scientifique, et la première étape, c'est le diagnostic. À qui a-t-on affaire et que se passe-t-il ? Vous ne pouvez traiter personne si vous n'avez pas fait un minimum de diagnostic. Quelle est la flore ? Est-ce que ça se vidange ? Et puis poser quelques questions, virus, immunité, que mangez-vous ? Faites-vous du sport ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous ressentez et que souhaitez-vous ? Si vous appliquez un traitement, il faut qu'il y ait une motivation. Si la personne vient avec des symptômes, que vous lui proposez quelque chose qui ne répond pas tout de suite à sa demande, il appliquera moins. Donc, vous avez un côté diagnostic personnalisé. Donc, vous avez des outils. Ça ne vient à l'idée de personne de faire un diagnostic avec des sensations, des approximations. Donc, vous avez un outil diagnostique qui vous permettra aussi d'établir un critère de suivi. On a déterminé que ça n'allait pas. Nous allons donc surveiller ces deux ou trois critères. Critères de suivi, toujours pareil, scientifique, régulier, propre.
Le docteur Bruno Donatini est notre invité jusqu'à 10h. Je rappelle le titre de votre livre, Doc, s'appelle « La bouche, miroir de votre santé, cancer, diabète, Alzheimer. Ce que notre bouche révèle » aux éditions Flammarion.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Avec le docteur Bruno Donatini ce matin, qui est gastro-entérologue et pathologue, cancérologue et immunologue, et qui publie « La bouche, le miroir de votre santé » aux éditions Flammarion. Et c'est vrai que le succès du microbiote intestinal nous ferait presque oublier les autres microbiotes, et notamment le microbiote de la bouche. Et vous, quand vous avez commencé votre enquête, vous avez cherché de la littérature, des études sur le sujet, et il n'y en avait pas. Donc qu'est-ce que vous avez fait ?
Eh bien, très rapidement, on s'interroge parce qu'on se dit la source de ce microbiote digestif, c'est pas sui generis, c'est pas produit comme ça spontanément. Il y a bien une contamination par un organe principal. Or, on trouve assez rapidement une notion de désinfection dans l'estomac. Vous avez une hyperacidité qui désinfecte, suivie par un effet chaud-froid, c'est-à-dire d'un pH acide qui devient alcalin. Donc les bactéries qui avaient supporté l'acide ne supportent pas l'alcalinité. Et puis vous avez une deuxième mode de destruction qui sont les sels biliaires, puis une troisième mode de destruction qui sont... L'oxygène se raréfie et vous avez presque plus d'oxygène disponible pour les bactéries qui supportaient au départ et qui vont se retrouver privées. Donc vous avez une désertification au niveau de l'estomac et du duodénum. Donc vous dites de toute façon, c'est recréé à partir d'une souche de base. Et comme on a un deuxième dogme là indiscutable, c'est une bonne flore est une flore riche. plus vous tuez votre flore par antibiotiques, désinfectants, argent colloïdal, antiseptique, piscine en excès, chlore.
Alors ça je l'ai appris, c'est donc, que finalement, par exemple, la piscine, c'était très mauvais pour la...
On désinfecte en permanence.
Mais pour la flore buccale, bien là, sûr. Pour le coup.
Hein, parce que là, on va désinfecter sans arrêt cette flore buccale, la flore cutanée devient pauvre, alors que... Il y a de belles publications montrant que ceux qui jardinent ont une flore plus riche parce qu'ils ont les mains dans la terre, ils mangent des produits bio, que ceux qui lavent leur vaisselle à la main alors qu'ils jardinent enrichissent la flore de leur famille parce que il y a un échange entre cette flore cutanée, les assiettes et finalement l'aliment. Donc, plus vous aurez peu de contact avec la terre, avec les végétaux, avec le bois, plus vous aurez une eau désinfectée, plus vous serez pauvre en flore. Donc la flore doit être riche et c'est une flore de surface que l'on va ingérer. Or, cette flore riche qui va déterminer notre santé, ce n'est pas la flore du côlon, puisqu'elle a été désinfectée.
Donc là, on parle de la flore qui est tout en bas, finalement.
La flore en bas, elle n'a rien à voir, elle ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, la flore principale est une flore passagère. Vous avez une flore passagère, vous avez trois flores. Une flore passagère, une flore de muqueuse, de paroi, qui vous protège contre l'extérieur, plus c'est épais, mieux ça vaut, et une flore qui a réussi à vous envahir. Donc cette flore qui vous a envahi peut vous protéger. Si vous êtes un nourrisson, un enfant en bonne forme, vous avez, il n'y a pas d'organes stériles, donc elle vous protège. Et puis vous avez une flore qui est néfaste, qui a pu vous envahir et qui va toucher les articulations, d'où les douleurs articulaires, les polyarthrites. Ça peut toucher le cerveau, donc donner une inflammation chronique, des pathologies neurologiques. Donc cette flore est la pire. Donc vous avez trois volets de flore et la flore colique, rectale, est une flore passagère sans intérêt. C'est une fosse septique. Donc celle-ci, c'est inutile d'aller l'analyser. Elle vous protège pas l'ensemble des muqueuses. On est à la fin du parcours. Et puis, elle ne pénètre pas, surtout. C'est pas celle qui est en interaction étroite avec votre corps noble.
Donc vous êtes intéressé à la flore donc du début, celle de la bouche. Et vous avez analysé, vous avez fait une enquête, hein, vous avez fait une étude, vous avez analysé la flore de 270 de vos patients qui étaient atteints de maladies auto-immunes. Alors pourquoi vous vous êtes intéressé à cela et qu'est-ce qu'ils avaient comme maladies auto-immunes ?
Alors on commence toujours par se dire, voilà la flore que je ne voudrais pas avoir. On se met un peu à la place des patients, on dit ils ont des maladies sévères, est-ce qu'ils ont une flore particulière au niveau buccal ? Donc on se dit, voilà, ça c'est l'exemple. Donc c'est la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, la rectocolite hémorragique. Donc on liste ses principales maladies, on se dit, est-ce que c'est plutôt une flore propionibacterium prevotella ? Est-ce qu'il y a des virus ? Et avec quelle fréquence ?
Donc, c'est pas la question de la poule et de l'œuf. C'est est-ce qu'ils ont une flore comme ça parce que justement ils ont ces maladies, ou c'est parce qu'ils ont cette flore-là qu'ils ont ces maladies ?
Excellente question. Donc, en fait, dans la démarche scientifique, on va toujours sectionner les choses pour avoir des bribes de réponses. On répond jamais d'un seul coup. Donc, première étape, c'est y a-t-il une association ? C'est de l'épidémiologie. Donc, premièrement, est-ce qu'il est très fréquent de trouver une mauvaise flore dans la bouche de ces gens, des virus et Prevotella ? Première étape, la réponse est oui. Ça veut dire qu'il y a un lien cause aux conséquences. Première étape, mais on a déjà répondu à quelque chose. C'est le problème du tabac et du cancer du poumon. Il y a un lien, c'est épidémiologique. La deuxième, c'est est-ce qu'on fait un essai clinique, c'est-à-dire on va donner du tabac à certains et pas de tabac à d'autres, et on se revoit dans 20 ans. Ça, c'est l'essai clinique. C'est l'approche prospectif clinique qui ressemble à ce qu'on fait dans l'industrie pharmaceutique pour montrer l'intérêt de quelque chose. Ça, c'est la rigueur. Mais ce n'est pas la seule méthode. L'autre méthode, c'est la méthode dite bayésienne de comparaison. Alors, c'est un peu technique, c'est policier. C'est un ensemble d'indices qui vous dit, si c'était pas lui, qui ça pourrait être d'autre ? Y a-t-il un autre coupable ? Et ce serait lequel ? Et pourquoi ? Est-ce que j'ai trouvé d'autres associations ? Est-ce qu'il y a d'autres malfaiteurs ? qu'est-ce qui pourrait expliquer que Et donc, là, c'est l'enquête policière. Vous savez, fréquence après fréquence, vous éliminez les autres possibles. Et quand vous éliminez les autres possibles, ben, vous dites, il n'y a pas d'autres causes possibles. Et là, vous vous dites, ben, je vais commencer la sclérose en plaques. Sclérose en plaques, vous faites votre étude et vous dites, il est déjà reconnu que le virus d'Epstein-Barr, qui est un virus de la famille des herpès, est impliqué dans la sclérose en plaques. C'est officiel. Vous ne faites pas d'Epstein-Barr, vous n'avez pas de sclérose en plaques. Vous le faites avant 15 ans, vous ne faites pas de sclérose en plaques. Vous le faites après 25 ans, vous ne faites pas de sclérose en plaques. Ça veut dire qu'entre 15 et 25, vous avez un complice qui est là et qui aide la pénétration du virus. Ce complice, c'est Propionibacterium acnes. On sait qu'il faut des caries. Hein. Les scléroses en plaques ont énormément de caries dentaires précoces, font plus d'acné, ont le nez bouché, fument plus, qui favorise Prevotella helicobacter. Vous vous dites, voilà mes coupables identifiés. C'est l'idée d'un microbiote. Il n'y a pas un fautif. Il y en a plusieurs. Vous savez, l'ancienne médecine, c'est bon, la typhoïde, c'est lié à telle bactérie, une salmonelle.
Ce que vous venez de dire, vous l'avez fait pour la maladie de Crohn, la rhinocolique hémorragique, la thyroïdite, les thyroïdites d'Hashimoto, les polyarthrites rhumatoïdes, alors les rhumatismes psoriasiques, alors là vous dites que c'est la palme, avec les spondylarthrites ankylosantes.
Oui, et là on trouve presque toujours des virus en cours de réplication, et puis Propionibacterium acnes. Donc on a une flore Prevotella très agressive, inflammatoire, détruisant les dents, abîmant les gencives, rabotant les muqueuses. Et en plus, on a des virus qui ont été acquis dans cette période, on va dire, de 15-25 ans, et qui ont envahi le système nerveux autonome, les vaisseaux, et puis qui vont favoriser la pénétration des bactéries qui ont diffusé dans les disques, dans les articulations. Donc vous avez une inflammation permanente. Il vous suffit de manger un peu de sucre ou un peu trop de féculents, et puis vous avez une explosion de la bactérie et des douleurs articulaires.
Une fois qu'on sait ça en préventif, comment est-ce qu'on agit pour justement ne pas développer ces maladies auto-immunes ?
Ben, si on a raison, et visiblement la pratique nous dit qu'on n'a pas tout à fait tort, il suffit d'enlever une brique du système. Et donc vous dites, la première prévention la plus facile, c'est le traitement antiviral. Puisqu'on a dans les grands virus, les herpès qui sont impliqués dans l'Alzheimer, on a l'Epstein-Barr, sclérose en plaques, lupus, vascularite, myélome. On a le cytomégalovirus qui, s'il est supprimé, supprime les tumeurs cérébrales. C'est un ouvreur de porte. Le cytomégalovirus, il détruit aussi l'os. Donc on se dit, l'herpès virus cible numéro 1. Et on va mettre en place un traitement préventif, vitamine D à haute dose. Moi, j'aime bien les champignons qui sont antiviraux.
Et quels sont-ils, les champignons antiviraux ?
Alors, les grands, si on doit en retenir, on va avoir le Coriolus versicolore, on va avoir le maïtake, qui est Grifola frondosa, on va avoir le Felinus lenteus, le Ganoderme, le célèbre Reishi, très utilisé. Je dirais, voilà les quatre grands champignons immunostimulants, sans risque, qu'on doit rajouter, riches en fibres, riches en oligo-éléments, riches en sucre. Donc on les utilise à petite dose, bien sûr, parce que ce sont des produits très puissants. Donc on a des toutes petites doses et qu'on va prendre sur des grandes périodes pour aller enrichir la flore et l'immunité. On surveille par l'augmentation des lymphocytes.
Et à quel moment on intervient alors ?
Dès qu'il y a un virus qui s'exprime, bouton de fièvre, gencives qui saignent, que l'on a fait un zona, que l'on a fait un Covid, que le nombre de globules blancs est trop faible, que les anticorps ne sont pas assez élevés, on va intervenir systématiquement, et c'est en général 40-50% de la population, et on va cibler sur tous ces gens avec maladies auto-immunes.
On va revenir sur le bouton de fièvre, parce que c'est très 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 courant, hein, ce petit bouton de fièvre, enfin, l'herpès labial, hein, qu'on appelle. Puisque vous êtes avec nous encore quelques instants, docteur Bruno Donatini. Pour tous ceux que ça intéresse, je rappelle que vous avez écrit un livre qui est passionnant et où vous parlez de notre bouche, hein, la bouche miroir de votre santé, aux éditions Flammarion.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
D'ailleurs, vous êtes peut-être en train d'écouter cette émission en portant la main à votre bouche ou votre doigt. Est-ce que c'est bon pour la santé, ça, docteur ?
Se réinfecter personnellement, c'est pas très intelligent, bien entendu, mais aller infecter les autres, c'est encore moins malin, puisque ces herpès virus sont très contagieux, herpès simplex, cytomégalovirus, Epstein-Barr, et c'est tout le problème de la transmission par les parents à leurs enfants, très tôt, de ces vilains virus. Donc on fait très très attention, en particulier avec les enfants entre 4 mois et 18 mois. On sait que la bronchiolite, qui est la source de l'asthme, va être la transmission de virus simples, de virus comme des rhinovirus, simple rhume, à l'enfant, ou du virus respiratoire syncytial, ce qui va déclencher des bronchiolites absolument dramatiques chez les nouveau-nés. Donc l'idée d'aller embrasser ou palper un enfant sans arrêt, sans s'être lavé les mains, ou avec une bouche qui est pleine de virus et un peu sanguinolente de maladies parodontales, c'est pas une bonne idée. On caresse un enfant avec des mains propres, et puis on le masse, on crée le contact, mais on va pas aller répandre des gouttelettes de façon inconsidérée. Donc, l'idée de l'hygiène que l'on a redécouvert par la Covid était indispensable et on l'avait oublié. Et ce ne sont pas les prises d'antibiotiques qui vont améliorer les choses. Un premier problème, c'est le virus qui est indépendant de l'antibiotique. Deuxième problème, c'est une flore riche qui permet de transmettre une flore riche à son entourage. Donc, en effet, les mains portées à la bouche, c'est pas une bonne idée. En revanche, prendre soin d'avoir une hygiène dentaire extrêmement minutieuse. Il faut pas de débris entre les dents. Donc, on doit faire très attention. En général, ce sont toujours les mêmes espaces dentaires qui sont
obstrués.
Donc, on va utiliser des brossettes, un fil dentaire très doux pour être sûr qu'il n'y a pas d'accumulation de débris qui vont aller vers la putréfaction, la flore anaérobie, qui est Fusobacterium
pyromonas. Flore anaérobie,
c'est... Anaérobie, c'est qui n'aime pas l'oxygène. Aérobie, c'est l'air et l'oxygène. Anaérobie, privatif, sans air, sans oxygène. Et donc, elle est à l'abri sous le bouchon d'aliments impactés entre les dents et elle va consommer la gencive. Et en consommant la gencive, en quelque sorte, elle s'aguerrit pour aller consommer les autres muqueuses. Et dès qu'elle arrive à dépasser l'estomac, elle va consommer la muqueuse de l'appendice, du côlon, du rectum et vous avez des colites et des maladies inflammatoires.
Bon, à cause de vous, j'ai vidé toutes mes bouteilles de l'hystérine. Je cherchais le nom, l'hystérine. J'avais tous les parfums, j'ai tout jeté.
Je suis absolument désolé, mais voilà, vous avez bien fait. Vous avez bien fait parce que l'idée, ce n'est pas de désinfecter, de détruire une flore, c'est de l'enrichir. Et le nez électronique permet de mesurer cette richesse. On va mesurer le NO, on va mesurer l'hydrogène sulfureux, qui est un deuxième test d'épaisseur de muqueuse. On va avoir des acides gras légers, ce qui veut dire que les mauvaises graisses ne peuvent pas passer et inflammer. Et ça, ce n'est pas en consommant de la listerine que vous améliorerez les choses. Donc, en général, on va...
C'est cette idée d'avoir une bouche bien rincée, bien désinfectée, vous voyez. Alors, vous proposez une alternative surprenante, d'ailleurs, hein, à base d'eau oxygénée.
Oui. Donc, la première des choses... Donc l'ennemi numéro un, le virus. Numéro deux, les anaérobies. C'est très simple, ils n'aiment pas l'oxygène, on va leur en donner. Donc on enlève ces petits bouchons entre les dents et on donne de l'eau oxygénée à 1% qui s'est révélée complètement sans risque, qui peut diminuer les gingivites, c'est en général assez spectaculaire, les gencives ne saignent plus au bout de quelques semaines, qui vont diminuer les herpès, voire la Covid. Donc on a un mécanisme simple, sans risque, peu coûteux, qui va suppléer à ces désinfectants qui ruinent la flore buccale. La flore buccale est la deuxième flore la plus riche de l'organisme.
Oui. La deuxième. On l'a pas dit, mais c'est la deuxième.
C'est la deuxième. Donc elle va, par le biais de la salive, permettre en plus la transformation des nitrates en nitrite. Nitrate, c'est ce qui est riche dans le légume. Le légume est bon pour la santé par ce biais-là. Et donc nitrate, nitrite, monoxyde d'azote, vidange, élasticité des artères, diminution du risque cardiovasculaire, diminution du poids. Ça, c'est la salive et c'est la flore. Et si vous tuez votre flore, vous aurez moins de phages, moins de ces petits virus contenus dans les bactéries qui équilibrent la flore et empêchent les antibiorésistances. Donc vous gagnez tout. La salive est après les océans, la zone où on trouve le plus de phages.
Alors les phages pour tout le monde, les phages pour tout le monde, on va redéfinir ce qu'on appelle un phage.
Un phage, c'est un petit virus qui est capable de détruire ou de respecter une bactérie. Ça dépend de son humeur, on a envie de dire. Vous avez des phages qui protègent, des phages qui détruisent, et selon les circonstances. Elle quitte le bateau quand ça va mal et elle tue la bactérie, mais sinon elle protège la bactérie qui les abrite en tout bon parasite. Donc c'est un régulateur et il permet d'échanger des fragments d'ARN et d'ADN, donc il crée la diversité et la résistance, donc la stabilité. Si vous avez une bonne flore, c'est grâce à votre phage qui stabilise l'ensemble et qui va détruire les staphylocoques qui ne peuvent plus rentrer. Donc, une fois que vous avez acquis une bonne flore, vous la conservez de cette façon-là. Surtout, ne détruisez rien. Soyez spécifique, vous avez telle bactérie qui vous pose problème, vous prenez l'antibiotique contre telle bactérie et ensuite vous remodulez la muqueuse pour qu'elle ne rentre plus. Donc c'est un phénomène de barrière et de stimulation de l'immunité et non pas de destruction qui fait la santé.
Alors on a vu que il y avait ce bain de bouche hein, avec de l'eau oxygénée diluée, mais pas que, hein, vous avez un complément.
On peut quand on a identifié
avec un petit mélange
une bactérie responsable, l'exemple typique, ce sont des bactéries résistantes aux antibiotiques qui peuvent donner des maladies inflammatoires de l'intestin, soit rectocolite à base de Prevotella, soit mycobactéries qui sont impliquées dans certaines maladies de Crohn. Là, vous pouvez utiliser un mélange avec des microdoses d'huile essentielle qui vont cibler ce type de flore extrêmement agressive. Et j'aime bien utiliser l'origan, la cannelle et le clou de girofle au 40e de goutte. Ça vous donne une idée. Vous avez des gens qui se nettoient la bouche avec des gouttes d'huile essentielle mise dans de l'huile ou dans du miel. Une goutte, ça vous ruine une flore. Une goutte, c'est 40 jours de traitement. Une goutte, 40 jours de traitement pour modifier une flore qui est puissante au point de vous donner une maladie de Crohn ou de rectocolite.
Le problème, c'est qu'elles ont tellement de succès aujourd'hui, les huiles essentielles, c'est que les gens ont tendance à
forcer un petit peu même. Si une n'a pas marché, on essaie avec deux, puis avec trois. Mais au bout de 10 jours, vous avez ruiné votre flore. Et puis, vous avez obtenu un silence. Alors, les patients vous disent, c'était merveilleux, j'avais plus mal au ventre, tout allait bien. Vous avez tout tué. Hein. C'est le silence qui précède la tempête. Et puis, d'un seul coup, plus de flore, plus de muqueuse. Alors là, tout repart de plus belle, avec plus d'inflammation, plus de problèmes, voire une baisse de flore, une prise de poids, de la graisse dans le foie.
Et là, on parle d'huile essentielle qui s'ingère. Hein.
Qui s'ingère. On ne prend pas d'huile essentielle par voie buccale, sauf au 40e de goutte, après un diagnostic personnalisé.
Il faut le répéter, ça. Hein.
Oui, diagnostic personnalisé. Vous avez un problème, commencez par définir le problème, qui vous êtes et ce qui se passe. Ensuite, vous avez des critères de suivi et puis vous avez une orientation diagnostique. On ne traite pas une infection virale comme une infection bactérienne ou une mauvaise vidange gastrique comme une infection cutanée. Donc, premièrement, on définit, on a une stratégie en fonction du virus, de la flore et du nerf vague qui est ce nerf de la vidange, le nerf automatique. Trois volets de santé. Le virus, immunité. On l'a vu avec le Covid, on avait oublié, hein, c'est important. La flore buccale, qui d'ailleurs est associée comme avec complicité avec les virus. Et troisième volet, un volet moteur. S'il n'y a pas de moteur de vidange, c'est un aquarium sans pompe à bulles.
Mais est-ce que ça veut dire que toutes nos maladies, elles trouvent leur origine dans la bouche ?
Alors pour moi, c'est certain. Au départ, vous savez, les êtres vivants, c'était une grosse bouche, un petit intestin, un cœur, puis pas beaucoup de cerveau au départ. C'est la limace de mer, c'est l'holothurie, c'est un tube. Et puis après, le tube s'est un peu spécialisé avec un foie, un pancréas pour arriver à sortir plus de nutriments et moins gaspiller. Et puis ensuite, on a mis un cerveau reptilien pour aller un peu se promener et chercher. Et enfin, on met un peu d'émotion en mettant le néocortex. En gros, voilà le développement. Donc au départ, nous sommes une bouche.
Pour ceux qui nous écoutent, en résumé ce matin, qu'est-ce que vous appelez, vous, une bouche saine ?
Une bouche saine, c'est une bouche qui a peu de caries, qui a des gencives qui ne saignent pas, A priori, la langue ne porte pas propionibacterium, il n'y a pas de fissure, vous n'avez pas de problème.
Comment
de,
vous appelez ça, la langue fissurée? Il y a un autre nom.
Une langue géographique éventuellement découpée, c'est vrai que...
Une langue géographique, j'adore.
C'est des découpages à l'emporte-pièce qui s'enchaînent, et puis il reste des petits morceaux de muqueuse, des îlots, des pièces séparées. Alors là, vous attendez au pire, hein, vous voyez ça, vous dites l'intestin est pareil. Ah oui, bon, ne parlez pas trop fort, sinon je prends toutes les odeurs, c'est un peu excessif.
Bon, alors la langue, et puis après alors,
langue, gencive, dent. Donc là, vous avez une bouche qui, si elle est saine, vous dit déjà, vous aurez peu de problèmes de flore. Le deuxième, on va regarder la peau. Est-ce qu'il y a des dépigmentations autour du nez, autour de la bouche? Est-ce que ça a, en quelque sorte, atteint le tissu sous-cutané? On va avoir aussi les paupières qui vont être blanchies. Ça peut aller jusqu'au vitiligo. On va le retrouver sur les mains. On va regarder les mains avec la même langue de Wood. Les coudes. Et là, on se dit, bon, on a une maladie qui s'est étendue, donc qui a pénétré les tissus et qui s'est étendue au niveau de la peau, qui a ruiné les glandes salivaires. Et on va retrouver les mêmes carences au niveau digestif, des muqueuses extrêmement fines. Ensuite, on va se servir du nez électronique et de l'échographie. L'échographie va nous dire l'estomac se vide ou pas. Non seulement on a mangé la muqueuse, mais le nerf qui était sous la muqueuse a été endommagé. Ça ne fonctionne plus. Ça ne va pas, il ne va pas roter. C'est même inutile d'aller le faire, tout stagne. Et l'estomac contient du liquide, l'intestin contient du liquide. C'est un tube noir, sans motricité. Vous dites là, ça dépose à longueur de journée, c'est un marais. Et là, vous dites, ça va remonter joyeusement au cerveau. 80% des messages vers le cerveau, 20% de commandes. Nous sommes un tube. Ce n'est pas le deuxième cerveau, c'est le premier cerveau. En termes de surface et de quantité de connexions et de neurones, d'échanges, le tube dépasse 5 fois le cerveau.
Bon, vous consultez, Doc?
Oui.
Ils vont tous vouloir aller vous voir, hein, pour la langue. Hein. Chacun va venir. Alors, avec sa petite lampe.
Pour consoler mes confrères, je ne prends pratiquement pas de nouvelles consultations.
C'est bien, comme ça c'est pratique.
Voilà. Comme ça, pas de concurrent, je ne fais pas ça pour ma consultation.
C'est passionnant. Je veux dire, vous ouvrez des nouvelles pistes pour la recherche, et on n'est qu'au début. Hein. Alors, vous allez voir, le livre est passionnant. Il y a aussi beaucoup de sujets. On a appris beaucoup de mots ce matin, mais faut réécouter l'émission tranquillement. Vous réécouterez le podcast sur beurrefm.net et vous pourrez voir la vidéo sur la chaîne YouTube. Et puis, vous pourrez donc lire le livre du doc. Donc, ça s'appelle « La bouche miroir de votre santé, cancer, diabète, Alzheimer. Ce que notre bouche révèle chez Flammarion. » Vous revenez quand vous voulez, Doc. Hein.
Bien volontiers. Merci mille fois.
Voilà. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.